Chapitre 11e. Je retrouve l'ermite, partie de campagne, rencontre de Kernot, quelques-unes de ses facéties, empoisonnement de l'ermite, mort de Kernot. Depuis quelques jours que l'ermite était à terre, j'avais déjà été à deux reprises lui présenter mes respects, et chaque fois il m'avait reçu avec une bienveillance toute particulière. Cela était au reste fort naturel, car en dehors de notre connaissance commencée à Rochefort, à la table de mon cousin Beaulieu-Leloup, j'étais le seul homme de l'équipage qui eût assisté, en ne voulant pas abandonner la frégate, à la mort de l'infortuné Graffin. L'ermite, j'en suis persuadé, me tenait compte de ce souvenir. « Mon cher Louis, me dit un matin mon excellent ami M. Montalant, je pars dans la journée pour mon habitation de la Poudre d'Or, qui est située, comme vous le savez, à 5 ou 6 lieues de la ville. Je compte que vous voudrez bien m'y accompagner. J'espère pouvoir y rester une semaine. Acceptez-vous, avec le plus grand plaisir. Ma foi, reprit M. Montalant après une légère pause, je voulais vous ménager une surprise. Mais à quoi bon? Pourquoi vous priver encore pendant 5 à 6 heures d'un bonheur que vous pourriez goûter dès à présent? Sachez donc, mon cher Louis, que le capitaine l'ermite a bien voulu accepter l'invitation que je lui ai faite afin de l'aider à rétablir sa santé délabrée, de venir passer quelques jours dans mon habitation de la Poudre d'Or. Vous pourrez le voir et causer avec lui tout à votre aise. » Je remerciai le bon M. Montalant avec effusion, puis 2 heures plus tard, en fourchant un petit cheval du cap qu'il avait fait seller pour moi, je me dirigeai vers son habitation. Quant à lui, il était déjà parti depuis 1 heure en voiture avec le capitaine l'ermite. Si, depuis que j'avais quitté mon père, il y avait plus de 2 ans au bout de l'allée des Veuves à Paris, j'étais devenu d'un enfant plus expérimenté un quasi-marin, cela ne m'avait pas rendu meilleur écuyer que n'eût pu l'être un collégien, car, je l'avoue, je n'avais jamais encore de ma vie monté à cheval. Je ne sais s'il faut attribuer à mon inexpérience, ou bien à la vivacité de ma monture, peut-être, plutôt encore à ces 2 causes réunies, les mésaventures qui m'arrivèrent pendant mon petit voyage, toujours est-il que 2 fois je fus désarçonné. Ma bête, fier probablement de ses premiers avantages, augmentait de plus en plus de vivacité, tandis que moi, humilié de ses défaites et voulant prendre ma revanche, je redoublais d'opiniâtreté. De ce manque complet d'entente cordiale entre le cavalier et la monture, résulta naturellement un assez long retard pour moi. Il était près de 4 heures lorsque je parvins en vue de l'habitation. Seulement, soit que mon cheval, furieux de voir qu'en dépit de lui je fusse venu à mes fins, soit que la joie de mon triomphe eût donné trop d'énergie à ma cravache. Toujours est-il qu'en passant auprès d'un champ de canne à sucre, il se cabra si subitement et avec une telle violence qu'il m'envoya voltiger par-dessus sa tête. Je me relevais, humilié, meurtri et contusionné, lorsqu'un coup rude et inattendu que je reçus sur l'épaule manqua me faire retomber par terre. Je crus au premier moment à une attaque, et me rejetant vivement en arrière de quelques pas, je me mis en défense. En effet, un homme portant un costume de planteur se tenait droit et immobile devant moi. « Pourquoi m'avez-vous frappé ? » demandai-je avec fureur à l'inconnu en m'apprêtant à m'élancer sur lui. Mais celui-ci, me tendant les bras, « C'est du propre de dire comme ça des mots à son matelot, » me répondit-il. « Eh ! Embrasse-moi donc, petit ! Nom de nom ! T'es poussé comme tout ! Ça me fait plaisir, là, vrai !»« Kernot ? » m'écriai-je en reconnaissant le breton. « Lui-même, vieux, y allons donc. Fais pas attention si la musique manque. Le cœur y est, ça suffit. » Nous nous embrassâmes avec effusion. « Comment donc se fait-il, matelot ? » lui demandai-je, lorsque je fus un peu revenu de ma surprise, « que je te retrouve ici. » « Dame, tu m'y trouves probablement parce que j'y suis. C'est bête comme tout, ta question, vieux. Est-ce que la terre n'est pas ronde ? Oui, n'est-ce pas ? Eh bien alors, qu'est-ce qu'il y a de drôle à ce que 2 matelots qui roulent leur bosse de tous les côtés finissent par se rencontrer sur cette boule ? T'as grandi beaucoup, c'est positif, mais t'as pas gagné du côté de l'esprit. Faut croire que ma société t'a manqué. Le fait est que je t'ai bien souvent regretté. Et moi donc ? D'autant plus que j'ai appris que vous êtes fichu de gentil Penny à bord de la preneuse. Vous avez de la chance. Et toi, qu'es-tu donc devenu depuis notre séparation à Cabite ? Moi, vieux, j'ai vécu bien des bonheurs embêtants. Tu te rappelles de la Pie Gloria, hein ? Quelque chose d'un peu joli et d'un peu grandement canaille, bah, et le moine Pérez, un fainéant qui s'obstinait à me larder de coups de couteau en cachette. Oh, cette fois, je l'ai tapé pour de bon. Tant pis. Dieu en ai-je eu de l'agrément et des charges depuis que je t'ai quitté. Je te raconterai cela un jour que nous serons de quart ensemble. Qu'il te suffise pour le moment de savoir que j'étais condamné à Cavite à être pendu. Vieille canaille de Pérez, va. Ça me flatte, quand j'y pense, de l'avoir tapé. Oui, vieux, j'étais condamné à la potence. Et sans un brave et excellent général, s'il en fut jamais, qui a bien voulu me trouver drôle et s'intéresser à mes farces, il ne serait plus du tout question du pauvre Kernot aujourd'hui. Mais assez causé sur ce sujet. Renons à toi. Est-ce que tu es devenu un dompteur de chevaux? Quel motif t'amène ici? Moi? Je suis invité à passer quelques jours à cette habitation que tu aperçois là, devant nous, et où se trouve en ce moment mon capitaine l'ermite. L'ermite habite dans cette baraque? Répéta vivement Kernot avec émotion. Tu es sûr de cela?
Parfaitement.
Mais qu'as-tu donc? Tu me sembles tout inquiet, tout agité. Est-ce que quelque danger menacerait mon brave capitaine? Mon matelot, au lieu de me répondre, grimpa avec l'agilité d'un écureuil le long d'un tamarinier qui s'élevait solitaire près de nous. Puis, une fois parvenu au sommet, je le vis examiner avec la plus grande attention le champ de canne à sucre qui s'étendait à ses pieds. Enfin, après un brusque mouvement de tête et de bras qui décelait la plus violente mauvaise humeur, Kernot s'empara d'une branche flexible et se laissa déposer par terre. « Je n'ai pas vu la jaquette blanche, » me dit-il avec accablement. « Qu'est-ce que c'est que la jaquette blanche, Kernot? Voyons, parle donc. Ah, c'est que tout ça est si embrouillé que c'est long et fatigant à dégoiser. Enfin, n'importe, je vais essayer. Et puis deux, ça vaut mieux qu'un. Car quand on est deux, on est deux. Oui, je sais, si l'on est matelot, on l'est, si on ne l'est pas, on ne l'est pas. Tu vois que j'ai bonne mémoire. Voyons, parle, je t'écoute. » Kernot, avant de me répondre, se haussa sur la pointe des pieds et regarda de nouveau le champ de canne à sucre. Puis, après cette inspection, probablement sans résultat, il s'essuya le front et s'assit au pied de l'arbre. Je me plaçai à ses côtés. « Avant tout, vieux, me dit-il, je dois t'apprendre comment il se fait que je me trouve en ce moment dans la plantation de M. Montalan. Comme je n'aime pas courir débordé, je te dégoiserai la chose en deux mots et tout net. Je suis amoureux fou d'une mulâtresse de cette habitation. Une fameuse femme, tout de même, tu verras. C'est à peine si, à nous deux, nous pourrions entourer sa taille avec nos bras. Elle doit bien peser 300 livres, la reine de mon cœur. Un vrai morceau de roi, quoi. Je te crois, mais tout cela ne m'explique pas ton émotion de tout à l'heure, lorsque tu as appris que le capitaine l'ermite demeurait chez M. Montalan, et cette jaquette blanche que tu cherchais avec tant d'inquiétude. Minute, on y va. Or donc, j'arrive ce matin, et je vais chercher ma belle dans sa case. Je la trouve entourée d'une dizaine de marmottons, ses enfants. Un détail, passons. Or donc, voilà que je l'emmène avec moi, histoire de s'entendre. Nous nous promenons un bout de temps, et, comme ça m'embête de marcher, je lui porte un regard à fond de cœur, et lui demande s'il ne voudrait pas faire un peu l'amitié de s'asseoir à côté de moi. Bon, nous nous asseyons. Or donc, à peine étions-nous casés sous la lisière de ce champ de canne à sucre que j'en vois sortir un particulier revêtu d'un pantalon de toile grise un peu goudronné et d'une jaquette blanche. Très bien. L'individu regarde tous les côtés d'un air inquiet, plus que ça même d'un air canaille. Puis, voyant qu'il ne voit rien, il se met à siffler un petit air de rigaudon en douceur. Bon, que je me dis, voilà un musicien qui possède tout de même un organe bien agréable. Lorsque tout à coup j'aperçois un affreux nègre qui sort celui-là de je ne sais où, et s'en vient en roulant ses yeux comme un diable et regardant autour de lui d'un air ébouriffé trouver en zigzag le musicien. Eh bien, Scipion, que lui dit ce dernier avec un accent anglish tout à fait anglish, je t'apporte la raque et l'argent. Puis-je toujours compter sur toi? La peau d'ébène s'empare de la bouteille, en lave d'un seul trait la moitié, et s'essuie la bouche avec le revers de la main. Ah ah, que je dis en voyant ce geste. V'là un garçon qui a des manières et qui connaît la civilité. Faut croire qu'il est attaché en qualité de domestique à l'habitation. Après, matelot, va donc plus vite, dis-je à Kernot en l'interrompant avec impatience. Je ne vois rien encore dans ton récit qui se rapporte au capitaine. Nom de nom, laisse-moi donc tranquille, vieux, tu m'embrouilles. J'y étais à l'ermite. Eh bien, voyons, continue. Je t'écoute. Or donc, v'là que la peau d'ébène, après avoir suifé sa poulie avec la raque, dit comme ça à l'anglish, car la jaquette blanche c'était, je te le répète, un anglish, ça fait pas pour moi un doute. Il dit donc comme ça à l'anglish dans son patois, « Moi paix, les mythes li beni, les pis en allaient d'ici, moi gagner le vin haute gourde. » Ah, satané canaille, que je m'écrie alors, vous allez m'expliquer un peu cette histoire ou je vous cogne à mort. Le noir Scipion et la jaquette blanche, en entendant ma voix, font une drôle de boule. Le premier roule de gros yeux qu'on n'y voit plus que du blanc. Le second pâlit, porte vivement sa main sous sa jaquette et en retire un pistolet. Quant à moi, je vas pour me jeter sur eux, quand ma mulâtresse, que le tonnerre écrase, m'empoigne dans ses bras, me serre avec fureur. Une Hercule que cette femme, vieux. Moi, plein d'égards pour elle, je me contente de lui envoyer un simple coup de poing au milieu de la face. Ah bah oui, c'est tout comme si je chantais. Elle n'y fait même pas attention. Moi, toujours galant, ne voulant pas abîmer cette pauvre petite poule, je lui flanque seulement deux nouvelles gifles, histoire de lui casser quelques dents. Tu crois que ça la calme? Tout le contraire, ça la rend furieuse. Elle se cramponne à moi, me mord, m'égratigne, tout en répétant « Moi, aimé beau Scipion, moi pas voulez, toi, Batley. » Dame, que te dirais-je? On est breton et galant, c'est incontestable. Mais ça fatigue à la longue d'être égratigné et mordu. Bon, que j'y pense, faut pourtant en finir. Je regarde alors ma belle avec tendresse et je l'assomme d'un coup de poing sur la tête. Elle ferme l'œil, fait la morte et me lâche. Bon, je profite de l'occasion, je me mets d'un bond sur mes pieds et je vas pour poursuivre ma peau d'ébène et mon anglish. Enfoncé, ils ont disparu. Je cherche, je furette, rien, rien. Voilà mon histoire. Eh bien, matelot, que vois-tu donc de menaçant dans tout cela pour l'ermite? Ce que je vois de menaçant, mille tonnerres? Tu m'as l'air drôle avec ta question. Ne sais-tu donc pas, vieux, que l'île de France entière est parsemée d'espions anglais? Il y en a partout, derrière les haies, sous les pierres, dans les champs de canne à sucre, je te le répète, partout. Je sais en effet que l'Angleterre possède des agents nombreux et entretient des intelligences dans l'île. C'est là un fait malheureusement trop certain et que l'on ne peut mettre en doute. Mais j'en reviens à ma première question. À quel danger crois-tu donc que soit exposé l'ermite? Mais est-ce que je le sais donc? Si je le savais, il n'y aurait plus de danger, pardi. Je giflerais toutes ces canailles-là, que le diable en prendrait les armes. Seulement, quoique je ne sois pas éduqué comme toi, vieux, je n'en ai pas moins pour cela mon petit grain de bon sens tout de même. Or, voilà le raisonnement que je me suis fait. L'ermite vient de fiche des peignées aux Anglish. L'ermite s'annonce comme un gaillard qui deviendra tout au moins un suffrène. Or, la vie d'un homme comme ça, vieux, ça coûte des millions de millions à l'Angleterre. Ça ruine ses établissements, ça bouscule son commerce, ça empoigne ses navires. Bref, ça l'embête considérablement. Tu es d'accord avec moi là-dessus, n'est-ce pas? Oui, il est en effet incontestable que l'ermite est en ce moment le plus dangereux ennemi que possède la puissance anglaise dans les mers de l'Inde. Bon, or donc, l'anglish, qui calcule un peu bien, se dit « Tiens, voilà un gaillard qui va me flibuster un tas de millions. Ne vaudrait-il pas mieux sacrifier 10, 20, 50, 100 000 francs même, et garder mes millions? Positivement, oui, ça vaudrait mieux, comprends-tu? Ma foi, pas trop, explique-toi plus clairement. Définitivement, t'as beaucoup grandi, mais c'est tout. Quoi? Tu ne comprends pas qu'avec 100 000 francs, on n'a que l'embarras du choix pour trouver un gredin qui vous descend d'un homme? Que dis-tu là? M'écriai-je en frémissant. « Dame, ce que je pense! Pourquoi donc cet anglish, déguisé en espèce de planteur, avait ici un rendez-vous avec le nègre Scipion pour lui causer de l'ermite? Pourquoi qu'il lui promettait 20 gourdes, mille noms de noms? Pourquoi qu'il portait un pistolet caché sous sa veste? Pourquoi, qu'en m'apercevant, il a pâli et pris de la poudre d'escampette? Tout ça, c'est pas des frimes, quand le diable y serait. Ça doit signifier quelque chose. » Oui. Le fait est qu'en réfléchissant froidement à toutes ces circonstances, il y a là un mystère qui mérite la peine d'être approfondi. Je m'en vais de ce pas trouver M. Montalent et lui faire part de mes soupçons. Veux-tu m'accompagner? Tiens, pourquoi pas? Je t'aiderai toujours un peu dans tes explications. Nous arrivâmes en quelques minutes à l'habitation et le bonheur voulut que M. Montalent se trouvât devant la porte. Puis-je vous parler de suite en particulier, mon cher monsieur? Lui dis-je. « J'ai à vous entretenir d'une affaire on ne peut plus importante et qui ne souffre pas de retard. »« Volontiers, mon cher ami, » me répondit-il. « Mais qu'avez-vous donc? Vous m'inquiétez. Montons dans ma chambre. » Une fois que nous fûmes tous les trois seuls, je m'empressai de prendre la parole, afin de ne pas laisser le temps à Kernot d'embrouiller mon explication, et je racontai de point en point à M. Montalan ce qui venait de se passer. Mon hôte écouta mon récit avec la plus grande attention. « Mon cher Louis, me dit-il dès que je cessai de parler, les faits que vous venez de me rapporter présentent, je l'avoue, une grande gravité. Peut-être, et je l'espère, ne sont-ils que le produit d'un quiproquo. N'importe, il faut que nous remontions à la source de ce complot et que nous l'éclaircissions à tout prix. D'abord, commençons par faire comparaître devant nous mon nègre Scipion. Je dois avant tout vous déclarer que ce nègre est le meilleur et le plus intelligent domestique que je possède, celui sur la fidélité duquel je crois avoir le plus de raisons de compter. Après tout, il est malheureusement incontestable que le nègre le plus fidèle n'est qu'un traître et le plus probe qu'un voleur. Voyons Scipion. » 5 minutes plus tard, Scipion faisait son entrée dans la chambre. « Est-ce bien là le même homme dont vous parlez ?» demanda M. Montalan en s'adressant à Kernot. « Le reconnaissez-vous ? » ?»« Si je le reconnais, je le crois bien, » s'écria le Breton. « Il est assez laid pour que l'on puisse s'en souvenir avantageusement. »« Très bien. Voyons, Scipion, » continua M. Montalan. « Parle-nous franchement. N'aie pas peur. Si tu m'avoues quelque chose en ta défaveur, je te jure que je ne te punirai point. Tu sais que je ne manque jamais à ma parole. Si au contraire tu essaies de me tromper, que tu mentes, je te promets qu'à présent que je suis averti, je te ferai fouetter jusqu'à ce que mort s'en suive.
Oh, Mousset, moi pas voulu être fouetté, moi pas les vrais.
Quel est cet anglais avec lequel tu t'es entretenu devant le champ de canne à sucre?
Lis pas anglais, Mousset, lis français.
Tu ne mens pas, prends garde.
Oh, Mousset, pourquoi Scipion l'y mentit? Il n'est rien gagné à ça.
Que te disait cet homme?
L'y était dit, moi, l'y avait un beau pantalon blanc à bande à mousser les mythes. S'il l'y voulait acheter, l'y vint goudre.
Que me chantes-tu là?
Moi pas chanter, Mousset, moi dis vérité. Cet homme l'y tailleur.
Quoi? Cet homme avec lequel tu causais est, dis-tu, un tailleur?
Oui, Mousset, l'y tailleur. L'y dit si moi pouvais faire l'y acheter un pantalon vin gourde, parce que Mousset les mythes a été pédit tout son habit et en manqué. L'Itaillot voulait donner moi une gourde.
Et toi, que lui as-tu répondu?
Moi, Mousset, était dire li, Mousset l'émite malade, li pas sauté d'ici dès longtemps, toi gagner les vingt gourdes.
Et puis ensuite, qu'est-il arrivé?
Ensuite, Mousset, li Mousset,
et en parlant ainsi, Scipion désigna Kernot.
Ensuite, Mousset, li Mousset a été caché dans Cannes avec Mulatès et Loa. L'y sauti fuyait et voulait battre moi, et moi était sauvé, et l'Itailleux était sauvé aussi. Et puis c'est tout, Mousset.
Est-ce que la mulâtresse Eloa n'est pas ta bonne amie, Scipion?
Oui, Mousset, aussi à moi.
L'air de vérité profonde et l'assurance dénuée de toute hésitation avec lesquelles Scipion avait répondu à cet interrogatoire dissipèrent, je dois l'avouer, complètement mes soupçons. Monsieur Montalan paraissait également tout à fait rassuré. « C'est bien, Scipion, » dit-il enfin au nègre après avoir réfléchi pendant quelques secondes. « Tu peux t'en aller. Toutefois, si ce tailleur revient, tu me l'amèneras. Crois-tu qu'il revienne ?»«
Oui, Mousset. L'y venit en co avec le pantalon pour vendre à Mousset l'émite. L'y voulait 20 gourdes et l'y certain vini en co sa cire. »«
Eh bien, messieurs, » nous demanda notre hôte après le départ du nègre, « que pensez-vous de mon esclave ?»«
Quant à moi, je vous déclare que je ne vois rien dans sa conduite qui soit de nature à éveiller nos soupçons.
Il n'y a eu dans tout cela, comme je l'espérais, qu'un malentendu, qu'un quiproquo.
Nom de nom, ce Morico m'a l'air au contraire malin comme tout à moi, s'écria Kernot. Que diable, j'ai des oreilles.
Et puis en supposant que je me sois trompé à son baragouin, j'ai encore des yeux.
Or donc, pourquoi qu'ils se sont sauvés à mon approche, ces gueux-là? Pourquoi qu'il a tiré un pistolet de dessous sa veste, l'angliche?
« Tonnerre, tout ça, c'est pas clair du tout. Non, c'est pas clair du tout. »
« Dame, il n'y a rien d'étonnant, mon ami, que Scipion et le tailleur, en vous voyant apparaître d'une façon si inattendue et si menaçante, aient été effrayés, » répondit M. Montalan.
« Bon, si ça avait été des honnêtes gens, ils auraient commencé par se cogner avec moi, et nous nous serions expliqués proprement ensuite, c'est-à-dire, non, ils se seraient d'abord expliqués, peu importe. Je suis pas éduqué, moi. »
ajouta Kernot en me lançant un regard plein de reproches sur ce que je ne le soutenais pas.
« N'importe, j'ai un peu roulé ma bosse et je me connais en malice. On ne me fiche pas dedans avec des blagues. Dieu veuille qu'il n'arrive pas un malheur.
Je vois, mon ami, que votre rivalité amoureuse avec Scipion vous conduit trop loin dans votre supposition, dit en souriant M. Montalan.
Ah, vous croyez des bêtises comme ça, vous ?
S'écria Quernot en rougissant.
Eh bien, vous vous fichez encore pas mal dedans. Est-ce que vous vous figurez bonnement qu'un frère Lacote comme moi n'est pas habitué aux frivolités des mulâtresses et qu'il y ait fait attention ?
Merci, je m'en moque pas mal des mulâtresses, moi, en fait de vrais sentiments.
Enfin, puisque c'est votre idée, n'en parlons plus.
Je me lave les mains de l'avenir. Bonsoir, la compagnie. »
Mon matelot, après avoir prononcé ces paroles avec une colère concentrée, se dirigeait vers la porte, lorsque M. Montalan l'arrêtant.
« Est-ce que vous nous abandonnerez ainsi ? »
lui dit-il avec bonté, « parce que nous ne nous trouvons pas être du même avis. Restez avec votre matelot tant que vous voudrez à mon habitation. Vous devez bien avoir des choses à vous raconter. Quant à moi, plus vous demeurez sous mon toit et plus j'en serai content. »
« Au fait, c'est vrai. Pourquoi que je ne resterai pas ?» s'écria Quernot.
« Oui, positivement, il vaut bien mieux que je ne m'éloigne pas.
Pourquoi ?
Dame, ça ne regarde personne. J'ai mon idée. Seulement, comme je ne tiens pas à ce qu'on le mongoye encore, je la garde pour moi. Merci, monsieur, de votre permission. Je l'accepte et ne m'en vais plus. »
Le lendemain de ce jour, je dînais avec l'ermite. C'était lui qui m'avait fait inviter par M. Montalan. La conversation tomba naturellement sur notre dernier combat et sur la mort de l'infortuné Graffin. À ce souvenir, je vis une expression de tristesse profonde se peindre sur le visage de l'ermite, qui à partir de ce moment garda un sombre silence. L'on venait de servir le dessert et les liqueurs, lorsque l'ermite, qui ne s'était plus mêlé aux propos des invités que par quelques rares monosyllabes, pâlit tout à coup et fut obligé de se cramponner à la table pour ne pas tomber.
« Qu'avez-vous donc, capitaine ? » s'écria M. Montalan avec effroi. « Vous sentiriez-vous indisposé ?»«
Oui, mon cher hôte, très indisposé, » répond l'ermite avec effort.
« Mais ne vous dérangez pas pour moi, ce n'est rien. Un peu d'air dissipera sans doute ce malaise. »
L'ermite voulut alors se lever, mais sa faiblesse trahit son courage. Il chancela sur ses jambes et retomba lourdement dans son fauteuil. Une pâleur cadavérique couvrait son visage. Tous les convives s'empressèrent autour de lui. Bientôt, une crise nerveuse s'empara de lui et le secoua avec une telle violence que ses dents claquèrent à faire croire qu'elles allaient se briser. M. Montalan, effrayé, s'était empressé d'envoyer chercher le médecin d'une habitation voisine. Un quart d'heure, qui n'eût paru long comme une journée, tant l'état de l'ermite empirait de seconde en seconde, s'écoula au milieu d'un silence général que troublaient seuls ces cris étouffés. Enfin, le docteur arriva. Il était temps. L'infortuné capitaine, tordu par une souffrance qui devait être atroce, se roulait par terre en proie à d'affreuses convulsions. Le docteur s'avança vers lui, lui prit le pouls, considéra attentivement les traits de son visage, puis, tirant une fiole d'une petite valise portative passée à son bras, il en fit respirer quelques gouttes au pauvre malade, qui reprit presque aussitôt connaissance. « À quelle cause attribuez-vous cette subite indisposition, capitaine ? » lui demanda-t-il.
« Je ne sais, docteur, » répondit l'ermite, « mais on dirait que je suis empoisonné. »«
Et si cela était, en auriez-vous le moral affecté, capitaine ?» demanda le docteur.
« Vous savez bien que non, monsieur, » répondit l'ermite avec effort. « Je vous prierai seulement de me dire franchement le temps qu'il me resterait à vivre, afin que je puisse prendre mes dispositions dernières. »«
Eh bien, capitaine, oui. »«
Vous avez été empoisonné, » s'écria le docteur avec véhémence.
« Oui. »
L'on a voulu vous assassiner, mais ne craignez rien. Je crois pouvoir répondre de vous. Il ne me semble pas que tout soit désespéré.
Faites, monsieur, répondit tranquillement l'ermite, cela ne me regarde pas.
À ce mot d'empoisonnement, un cri spontané de surprise et de désespoir avait été poussé par tous les convives.
Ce qui m'afflige, docteur, dit l'ermite, c'est qu'il y ait un homme au monde qui ait pu m'en vouloir à ce point. J'espérais n'avoir pas d'ennemis.
« Ce n'est pas un homme, mon capitaine, c'est un singe malfaisant. »«
C'est ça !»
s'écria en ce moment à la porte du salon une voix rude et émue. Tous les regards se tournèrent vers l'interrupteur et je vis Quernot, dont l'énorme poing droit s'abaissait en ce moment sur la tête d'un grand nègre qu'il tenait de sa main gauche à moitié terrassée. L'esclave poussa une espèce de mugissement étouffé et tomba lourdement à terre. Je reconnus Scipion. On transporta l'ermite dans sa chambre. Nous étions tous plongés dans la consternation. Quant à Scipion, que l'homérique coup de poing de mon matelot avait privé de connaissance, on lui lia étroitement les membres et on le jeta dans la geôle de l'habitation. Un serviteur blanc fut mis de garde à la porte de sa prison. Dès que je me trouvais seul avec Guernot, je m'empressais, comme on le pense, de lui demander de quelle façon il était parvenu à découvrir le coupable de l'abominable empoisonnement de l'ermite.
« Non de non, fallait pas être bien malin pour ça, » me répondit-il d'un air modeste.
Depuis ma rencontre avec le moricaud dans le champ de canne à sucre, je ne l'ai pas perdu de vue un instant. Or donc, lorsque tantôt notre brave capitaine est tombé de table, j'ai vu la peau d'ébène que je guettais du coin de l'œil se frotter d'abord joyeusement les mains, puis se diriger ensuite tout doucement vers la porte de sortie. « Bon, que je me suis dit, t'es trop pressé, et t'as l'air trop content de toi pour que tu ne sois pas au moins un peu coupable. Attends un peu. » Et sans perdre de temps, j'empoigne alors mon drôle par la gorge et le serrant avec délicatesse. « C'est toi qui as empoisonné l'ermite, » que je lui crie à l'oreille. « Je vais t'assommer. » Là-dessus, voilà le Scipion qui se trouble, et finit finalement par me proposer 10 piastres, si je consens à garder le silence. « Ah, satané gredin, que je pense, cette dernière canaillerie-là va te valoir un fameux atout. Attends un peu. » Sur ce, je le traîne à la porte du salon et je le cogne, comme t'as vu. Seulement, j'étais tellement vexé que j'ai pas mis toute l'attention possible pour lui allonger ce coup de poing. Je rageais trop. Et voilà comment ce double gueux vit encore. Mais assez causé pour le moment. Au revoir, matelot. Où vas-tu donc ainsi ? Demandai-je à Guernot en le voyant se disposer à sortir. « Ah, quant à ça, ça ne te regarde pas. T'es éduqué plus que moi, mais je suis plus malin que toi. Laisse-moi terminer, sans t'en mêler, mes affaires. » Guernot, après cette réponse, sortit tout en sifflant un petit air de fandango, une réminiscence sans doute de son séjour à Cavite. Je passai, ainsi que tout le monde de l'habitation, le reste de la nuit sur pied. L'état du capitaine empirait d'heure en heure. Cependant, le médecin, qui ne le quittait pas, prétendait qu'il répondait de lui. En effet, lorsque le soleil se leva, l'épouvantable crise que depuis près de 10 heures l'ermite subissait avec une résignation de martyr se calma peu à peu et finit par s'endormir d'un sommeil léthargique. J'allais me jeter sur mon lit pour prendre un moment de repos lorsque, je me rappelle encore cet événement comme s'il ne datait que d'hier, je vis Guernot pâle, défait, se soutenant à peine, qui se dirigeait vers la porte de l'habitation. Il s'appuyait sur un bâton noueux retenu à son poignet par une attache de cuir. Je me précipitai vers lui. « Qu'as-tu donc, matelot ? » lui demandai-je en le saisissant dans mes bras pour l'empêcher de tomber. « Ce que j'ai, vieux ? » me répondit-il en essayant de sourire. « Mais pas grand-chose. Une prune anglaise que je ne puis pas digérer dans le corps. Ah, ne me serre pas si fort, vieux, tu me fais mal. Je me sens ce matin douillé comme tout. » Mon pauvre matelot, en parlant ainsi, retira sa main gauche, qu'il appuyait sur sa poitrine, et me montra une affreuse blessure. « C'est l'Angliche qui m'a pistoleté le chenapan, » continua-t-il en me faisant signe de ne pas l'interrompre. « C'est mesquin, je le sais, mais que veux-tu ? On ne peut pas attendre de la politesse d'un espion. Après tout, faut avouer que je lui ai fendu un peu le crâne. Crénon, je me sens feignant. Assois-moi par terre. Attends-moi, matelot. » lui dis-je avec émotion, après avoir obéi à son ordre. « Je m'en vais chercher des secours. »« Pas la peine, vieux, je suis cuit. »« C'est fini. »« Ah non de non. »« Tout de même, je boirais bien quelque chose. »« Ah, par Dieu, on dirait que je vais tourner l'œil. »« Je vois plus clair. »« C'est-y bête. »« J'ai donc une poule ?»« Dis donc, Louis. »« Oh là, moi qui avais tant de choses, de blagues à te raconter. »« Ça tombe mal. » Mon pauvre matelot prononça encore quelques paroles inintelligibles. Puis bientôt, ses membres se roidirent dans une convulsion suprême. Je me penchai sur lui et je saisis sa main dans la mienne. Elle était froide. Guernot venait de rendre le dernier soupir. Je ferai grâce au lecteur de l'émotion que me causa cette mort. Je dois dire toutefois que le lendemain, dans la journée, l'on retrouva à 500 pas au plus de l'habitation de M. Montalant, le cadavre de l'espion ou du matelot anglais, enfin de l'homme à la jaquette blanche, car ce mystère ne fut jamais expliqué, étendu dans un champ de canne à sucre. L'inconnu avait eu le crâne défoncé d'un coup de bâton. Quant au nègre Scipion, quoiqu'il eût été solidement garrotté et qu'un serviteur fût resté toute la nuit de garde à la porte de sa prison, on s'aperçut avec étonnement, le lendemain matin, en entrant dans sa geôle, qu'il s'était débarrassé de ses liens. Il était couché tout de son long par terre et semblait dormir. Une bouteille d'arak, à moitié vide, reposait près de lui. Lorsqu'on voulut le faire lever, on le trouva mort. Le reste de l'arak contenu dans la bouteille fut porté au médecin, qui déclara que cette liqueur était empoisonnée. Comment cela avait-il eu lieu? On ne l'a jamais su, et comme je ne fais pas un roman ici, et que je me contente de retracer les faits dont j'ai été le témoin, dans toute leur véracité, je me vois forcé, quitte à déplaire au lecteur, de laisser ces événements sans explication aucune. Pendant 15 jours, on craignit même pour la vie de l'ermite. Cependant, soit que le poison eût été attaqué à temps, soit que la constitution du rude et vaillant capitaine eût pris le dessus, toujours est-il qu'après un traitement bien suivi de 2 semaines, il entra en pleine convalescence. Quant à moi, je crois inutile de mentionner que pendant tout le temps de sa maladie, je le veillais constamment et ne le quittais pas d'une minute. L'ermite, quelque naturel qu'ait été ma conduite en cette circonstance, m'en garda toujours une vive reconnaissance. Au reste, quoique notre brave capitaine fût sorti victorieux de cette épouvantable lutte avec le poison, la victoire ne fut pas pour lui sans désastre. 20 ans plus tard, lorsque je le retrouvais préfet maritime à Toulon, il se ressentait encore profondément de cette affreuse secousse. Ses mains crispées et ses jambes tremblantes, dont il pouvait à peine se servir, témoignaient, hélas, d'une façon irrécusable, de la terrible puissance du poison que composent les Noirs. Le capitaine l'ermite, une fois rétabli, retourne à la ville, où son entrée fut presque un triomphe. Reconnaissant, je l'ai déjà dit, outre mesure, des soins que j'avais été assez heureux pour pouvoir lui prodiguer, il ne se passait guère une journée sans qu'il me fît venir. Il s'intéressait à mes progrès dans le dessin, avec une sollicitude toute paternelle, qui stimulait mon ardeur et me faisait redoubler d'efforts. Au reste, ce fut seulement dans cette espèce de demi-intimité, relativement à nos âges et à nos grades, que je pus apprécier tout ce qu'il y avait en lui de grandeur d'âme et de sublime simplicité. Je me rappelle encore une conversation que nous eûmes un jour. Il s'agissait de l'état de sa santé si sensiblement altéré par le sinistre événement dont il avait manqué d'être la victime. « Combien l'homme est insensé dans son orgueil, dit-il, lorsque son sang circule librement dans ses veines, qu'il sent de la vigueur dans sa poitrine, de l'élasticité dans ses nerfs, il se vante, il défie le hasard, le monde entier lui appartient, il se croit invincible. Mais qu'un esclave idiot verse quelques gouttes de sucre d'une plante nuisible dans la coupe de cet homme, que la maladie le touche du bout de son aile, qu'une fièvre, même ordinaire, s'asseye à son chevet, et le voilà qui tremble et qui divague. L'action la plus simple à accomplir devient pour lui un obstacle qu'il n'ose essayer de franchir. Il ne croit plus à rien. Il a peur de tout. Moi qui vous parle, n'ai-je pas un instant à bord de la preneuse, lorsque la fièvre me minait, jeté la raillerie sur mon chef, sur l'amiral Cersei? Et pourtant ce marin compte de beaux combats. Ah, quelle triste chose que l'homme! En quelle pitié la foule prendrait souvent tous ces héros qui lui impose et qu'elle admire, si elle pouvait descendre au fond de leur cœur. »